Chapitre 49. La vedette rapide glissait entre les gerbes d'écume, passait devant des plages de sable ivoire, des arbres luxuriants, des pelouses bien entretenues. Elle rit malgré elle en se voyant à présent dans un gilet de sauvetage orange, un navire apparaissant au loin dans l'air grisonnant, ses compagnons avec leurs lunettes de soleil, en route pour la maison de plage des amis de Prié, où ils feraient griller de la viande et courraient pieds nus. Elle pensa « Je suis vraiment chez moi. Je suis chez moi. » Elle n'envoyait plus de textos à Raninudo pour savoir quoi faire. « Faut-il que j'achète de la viande chez Shoprite ? Ou dois-je envoyer Iyabo au marché ? Où puis-je trouver des cintres ?» Désormais, elle se réveillait au cri des paons et se levait avec le programme de sa journée et son emploi du temps tout tracé. Elle s'était inscrite à un gymnase, mais n'y était allée que deux fois, car elle préférait retrouver ses amis en sortant du travail. Elle avait beau se jurer de ne rien manger, elle finissait par avaler un club sandwich en buvant un ou deux Chapman, puis elle décidait de remettre le sport à plus tard. Ses vêtements la serraient de plus en plus étroitement. Quelque part, dans un recoin éloigné de son esprit, elle voulait perdre du poids avant de revoir Obinze. Elle ne l'avait pas appelé. Elle attendrait d'avoir retrouvé sa ligne. Au bureau, elle éprouvait une impatience grandissante. Zoe l'étouffait. Comme un pull rêche par temps froid, elle avait envie de l'ôter, mais craignait les conséquences. Elle songeait souvent à commencer un blog, écrire ce qui était important pour elle, le développer lentement et finir par créer son propre magazine. Mais c'était flou dans son esprit. Il y avait trop d'inconnus. Ce job, maintenant qu'elle était rentrée chez elle, lui donnait un point d'ancrage. Au début, elle avait aimé tenir cette chronique, interviewer des femmes de la bonne société chez elle, observer la façon dont elles vivaient et réapprendre d'anciennes subtilités. Mais elle s'était vite ennuyée et elle attendait la fin des entretiens, mi-attentive, mi-absente. Chaque fois qu'elle s'engageait dans les allées cimentées de leur propriété, elle rêvait d'enfoncer ses doigts de pied dans du sable. Une employée ou un enfant la priait d'entrer, de s'asseoir dans un salon tout de cuir et de marbre qui lui rappelait l'aéroport impeccable d'un pays riche. Puis Madame apparaissait, chaleureuse et enjouée, lui offrait à boire, parfois à manger, avant de s'installer sur un canapé pour parler. Toutes ces madames qu'elle interviewait se vantaient de ce qu'elles possédaient, des endroits qu'elles et leurs enfants avaient visités, de ce qu'ils avaient fait. Puis elles terminaient leur fanfaronnade par Dieu. « Nous remercions Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, Dieu est notre soutien. » En partant, Ifemelu pensait qu'elle pourrait écrire les articles sans faire les interviews. Elle aurait pu aussi couvrir les événements sans y assister. C'était un mot banal à Lagos, un mot populaire, événement. Ce pouvait être le lancement d'une marque, un défilé de mode, la promotion d'un nouvel album. Tante Onenu insistait toujours pour qu'une journaliste accompagne le photographe. « Je vous en prie, n'oubliez pas de vous mêler aux autres, » disait tante Onenu. « S'ils ne nous achètent pas de publicité pour le moment, il faut qu'ils s'y mettent. S'ils le font déjà, il faut qu'ils en achètent davantage. » Tante Onenu prononçait le mot mêlée avec emphase, comme si elle estimait que ce n'était pas le fort d'Ifemelu. Peut-être avait-elle raison au fond. Dans ces événements, dans ces salles égayées de ballons multicolores, aux tentures soyeuses drapées dans les angles, aux chaises recouvertes d'étoffes de gaz, où déambulaient des hôtesses trop nombreuses et trop maquillées, Ifemelu détestait parler de Zoe à des inconnus. Elle passait son temps à échanger des textos avec Raninudo, Prié ou Zemaye, attendant de pouvoir partir sans que cela paraisse impoli. Il y avait toujours deux ou trois discours interminables, et tous semblaient écrits par la même plume, verbeuse et hypocrite. Les célébrités et les riches étaient cités. « Ce soir, nous avons l'honneur de compter parmi nous l'ancien gouverneur de... » Les bouchons sautaient, on ouvrait les bouteilles de jus de fruits, on servait les samosas et les satayes de poulet. Une fois, au cours d'un événement auquel elle assistait avec Zemaye, le lancement d'une nouvelle boisson, elle crut voir passer Obinze. Elle se tourna. Ce n'était pas lui, mais cela aurait très bien pu l'être. Il aurait pu assister à des événements comme celui-ci, dans une salle comme celle-ci, avec sa femme à ses côtés. Rani Nudo lui avait dit que, quand elle était étudiante, sa femme avait été élue la plus belle fille de l'université de Lagos. Dans l'imagination d'Ifemelu, elle ressemblait à Bianca Ono, l'icône de son adolescence, avec ses hautes pommettes et ses yeux en amande. Et quand Rani Nudo mentionna son nom, Kosiso Chukwu, un nom inhabituel, Ifemelu imagina la mère d'Obinze lui demandant de le traduire. La pensée de la mère et de la femme d'Obinze décidant de la meilleure traduction. La volonté de Dieu, ou comme il plaît à Dieu, lui fit l'effet d'une trahison. Ce souvenir de la mère d'Obinze lui disant « traduis-le » tant d'années auparavant lui paraissait encore plus sérieux aujourd'hui qu'elle n'était plus là. Comme Ifemelu s'en allait, elle aperçut Don. « Ifemelu » dit-il. Il lui fallut un moment pour le reconnaître. Rani Nudo les avait présentés un après-midi, des mois plus tôt, quand Don était passé chez Rani Nudo en se rendant à son club, habillé de blanc pour le tennis. Ifemelu était parti immédiatement, les laissant seuls. Il avait plus d'allure dans un costume bleu marine, ses cheveux brillants parsemés de fils d'argent. « Bonsoir, » dit-elle. « Vous êtes en beauté, particulièrement en beauté, » dit-il, jetant un regard appréciateur sur sa robe de cocktail, largement décolletée. « Merci. Vous ne demandez pas ce que je deviens ?» Comme si elle avait eu une raison de le lui demander. Il lui tendit sa carte. « Appelez-moi, n'y manquez pas. Nous parlerons. Au revoir. » Il ne s'intéressait pas vraiment à elle, pas spécialement. Il était seulement quelqu'un d'important à Lagos. Elle était séduisante et seule, et d'après les règles de leur univers, il se devait de lui faire des avances, même sans conviction, même s'il sortait avec une de ses amies. Et il s'attendait, naturellement, à ce qu'elle n'en dise mot à Rani Nudo. Elle glissa la carte dans son sac et, rentrée chez elle, la déchira en petits morceaux qu'elle regarda flotter dans l'eau des toilettes pendant un moment avant de tirer la chasse. Bizarrement, elle était furieuse contre lui. Son initiative disait quelque chose de son amitié avec Rani Nudo qu'elle n'aimait pas. Elle appela Rani Nudo. Elle était sur le point de lui raconter ce qui était arrivé, quand Rani Nudo dit « Ifem, je suis complètement déprimée. » Et Ifemelu se contenta de l'écouter. Il s'agissait de Ndoudi. « C'est un vrai gosse. Si on dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il cesse de parler et se met à chantonner. Chantonner sérieusement. Chantonner tout haut. Comment un adulte peut-il avoir un comportement aussi immature ?» On était lundi matin. Ifemelu lisait Post Borgi, son blog américain préféré. Zemaye triait des tirages photos sur papier brillant. Doris fixait l'écran de son ordinateur, entourant de ses mains un mug « I love Florida ». Sur son bureau, près de son ordinateur, il y avait une boîte de thé en vrac. « Ifemelu, cette chronique n'est-elle pas un peu trop rentre-dedans ?»« Tes commentaires éditoriaux sont inestimables, » dit Ifemelu. « Que signifie rentre-dedans ? Tu peux l'expliquer à celles d'entre nous qui n'ont pas été à l'école en Amérique ?» dit Zemaye. Doris l'ignora. « Je ne crois pas que Tanto Nenou acceptera qu'on publie ça. » « C'est à toi de la convaincre, tu es rédactrice en chef. Il faut donner un coup de jeune à ce magazine. » Doris haussa les épaules et se leva. « Nous en parlerons à la réunion. »« Je tombe de sommeil, » dit Zemaye. « Je vais demander à Esther de faire du Nescafé avant de m'endormir pendant la réunion. »« Le café instantané n'est-il pas une horreur ?» dit Doris. « Je suis tellement contente de ne pas être une grande buveuse de café, sinon j'en mourrais. »« Qu'est-ce qui ne va pas avec le Nescafé ?» demanda Zemaye. « On ne devrait même pas lui donner le nom de café. On ne fait pas plus mauvais. » Zemaye bâilla et s'étira. « Moi, j'aime ça. Le café, c'est du café. » Plus tard, en pénétrant dans le bureau de tante Onenou derrière Doris, qui portait une robe tablier et des chaussures noires à brides et à talons carrés, Zemaye demanda à Ifemelu « Pourquoi Doris porte-t-elle n'importe quoi au bureau ? On dirait qu'elle se fiche du monde. » Elles s'assirent autour de la table de conférence ovale dans le bureau de tante Onenou. Les nouvelles extensions de Tantonénou étaient plus longues et plus incongrues que les précédentes, relevées haut sur le crâne, avec des ondulations flottant dans le dos. Elle buvait à même une bouteille de Diet Sprite et déclara que l'article de Doris, « Épousez votre meilleure amie », lui plaisait. « Très bon et très inspiré », dit-elle. « Ah, mais Tantonénou, les femmes ne devraient pas se marier avec leur meilleure amie parce qu'il n'y a pas d'alchimie sexuelle », dit Zémaillé. Tantonénou lança à Zémaillé le genre de regard qu'on jette à l'étudiant inepte, qu'on ne peut pas prendre au sérieux. Puis elle rassembla ses papiers et dit qu'elle n'aimait pas le portrait de Madame Funmi King par Ifemelu. « Pourquoi dites-vous, elle ne regarde jamais son domestique quand elle lui parle ?» demanda-t-elle. « Parce que c'est vrai ?» répondit Ifemelu. « Mais cela donne d'elle une image déplaisante. Je pense que c'est un détail intéressant, » dit Ifemelu. « Je suis de l'avis de Tantonénou, » dit Doris. « Intéressant ou pas, c'est s'ériger en juge, non ?» Le principe de l'interview et du portrait revient à s'ériger en juge, dit Ifemelu. La question n'est pas le sujet. C'est ce que l'intervieweur en fait. Tantonénou secoua la tête. Doris secoua la tête. Pourquoi devons-nous rester aussi timorés ? Demanda Ifemelu. Doris feignit de plaisanter. Ce n'est pas ton blog américain où tu provoquais tout le monde, Ifemelu. C'est un magazine féminin sérieux.
Exactement, renchérit Tantonénou.
Mais Tantonénou, nous ne dépasserons jamais glace si nous continuons ainsi, dit Ifemelu. Tantonénou écarquilla les yeux.
Glace fait exactement ce que nous faisons, dit vivement Doris.
Esther entra pour prévenir Tantonénou que sa fille était arrivée. Esther vacillait sur ses hauts talons noirs, et comme elle passait près d'elle, Ifemelu craignit que ses chaussures ne cèdent et qu'Esther se torde les chevilles. Dans la matinée, elle avait dit à Ifemelu,
« Tante, vos cheveux sont diaga diaga. »
Avec une sorte de franchise affligée, à propos de la coiffure afro bouclée dont Ifemelu était pourtant fière.
« Hein, elle est déjà là ?» dit Tantonénou. « Les filles, finissez la réunion sans moi, je vous prie. Je vais faire des courses avec ma fille et j'ai un meeting cet après-midi avec nos distributeurs. »
Ifemelu était fatiguée et morte d'ennui. Elle pensa à nouveau à lancer un blog. Son téléphone vibrait, Rani Nudo l'appelait. En temps normal, elle aurait attendu la fin de la réunion pour la rappeler, mais elle dit « Excusez-moi, il faut que je réponde, un appel de l'étranger. » Et elle se hâta de sortir. Rani Nudo se plaignait de Don.
« Il dit que je ne suis plus la fille agréable que j'étais avant, que j'ai changé. En attendant, je sais qu'il m'a acheté la Jeep et l'a même dédouanée au port, mais maintenant il ne veut plus me la donner. »
Ifemelu pensa à l'expression « fille agréable ».« Fille agréable » signifiait que longtemps, Don avait fait de Rani Nudo quelqu'un de malléable, ou qu'elle lui avait permis de le croire. « Ndoudi ?» Rani Nudo poussa un gros soupir.
« Nous ne nous sommes même pas parlé depuis dimanche. Aujourd'hui, il va oublier de m'appeler. Demain, il sera trop occupé. Je lui ai dit que ce n'était plus tolérable. » Pourquoi devrais-je faire tous les efforts? Maintenant, il boude. Il ne peut jamais avoir une conversation d'adulte ni reconnaître ses torts.
Plus tard, dans leur bureau, Esther annonça qu'un certain monsieur Tolu voulait voir Zémaillé.
C'est le photographe avec lequel tu as fait l'article sur les tailleurs?
Demanda Doris.
Oui, il est en retard. Il évite mes appels depuis plusieurs jours.
Doris dit. Occupe-toi de ça et assure-toi que j'ai les photos demain après-midi. Il faut que tout parte chez l'imprimeur avant 3 heures. Je ne veux pas un nouveau retard d'impression, surtout maintenant que glace est imprimée en Afrique du Sud.
D'accord. Zémaillé secoua sa souris. Le serveur est tellement lent aujourd'hui. Il faut que j'envoie ce truc. Esther, dis-lui d'attendre.
Oui, ma.
Tu te sens mieux, Esther ?
Demanda Doris.
Oui, ma. Merci, ma.
Esther fit la révérence, suivant la coutume Yoruba. Elle se tenait près de la porte, attendant qu'on la congédie, tout en écoutant la conversation.
« Je prends le médicament pour la typhoïde. »«
Tu as la typhoïde ?» demanda Ifemelu.
« Tu n'as pas remarqué son état lundi ? Je lui ai donné de l'argent et lui ai dit d'aller à l'hôpital, pas à la pharmacie. dit Doris. Iphémélou s'en voulut de ne pas avoir remarqué qu'Esther était souffrante. « Je suis désolée, Esther, » dit-elle.
« Merci, Emma. »«
Esther, désolée, oh, »
disait Maillé.
« J'ai vu qu'elle avait mauvaise mine, mais j'ai pensé qu'elle jeûnait. Vous savez qu'elle est toujours en train de jeûner. Elle jeûnera et continuera à jeûner jusqu'à ce que Dieu lui donne un mari. »
Esther gloussa. Je me souviens de cette crise très sévère que j'ai eue quand j'étais au lycée, dit Iphémélou. C'était terrible. Je prenais un antibiotique qui n'était pas assez fort. Que prends-tu, Esther?
Un médicament, ma.
On t'a donné quel antibiotique?
Je ne sais pas.
Tu ne connais pas le nom?
Je vais les apporter, ma.
Esther revint avec des sachets de pilules transparents, sur lesquels n'était inscrit aucun nom, mais où figuraient des instructions d'une écriture en pâte de mouche à l'encre bleue. Deux le matin et le soir. Une trois fois par jour. Il faudrait écrire un article sur le sujet, Doris. Avoir une rubrique santé avec des conseils pratiques. Quelqu'un devrait avertir le ministère de la Santé que les Nigérians ordinaires vont voir un médecin et qu'il leur donne des médicaments qui ne portent pas de nom. C'est un truc qui peut vous tuer. Comment peut-on savoir ce qu'on a déjà pris ou ce qu'on ne doit pas prendre à cause d'un autre traitement?
1-1. Mais c'est un problème mineur. Ils le font pour que tu n'achètes pas le médicament chez quelqu'un d'autre,
disait Maillé.
Mais les contrefaçons, va au marché et regarde un peu ce qu'ils vendent.
Ok, calmons-nous, pas besoin de devenir des activistes. Nous ne sommes pas un journal d'investigation, dit Doris.
Iphémélou commença alors à se représenter ce que serait son nouveau blog. Un design bleu et blanc, et sur la bannière de la page d'accueil, une photo d'une scène typique de Lagos. Rien de déjà vu, pas d'embouteillage de bus jaune rouilli, ni de taudis au toit de tôle dans un terrain inondé. La maison abandonnée à côté de chez elle ferait peut-être l'affaire. Elle prendrait la photo elle-même, dans la lumière hantée du crépuscule, avec l'espoir de saisir un pan en vol.
Les postes du blog seraient composés dans une typographie simple et lisible. Un article sur les soins de santé, basé sur l'histoire d'Esther, avec des illustrations de sachets de médicaments anonymes. Un sujet sur Niger Politan Club. Une rubrique de mode consacrée aux vêtements que les femmes pouvaient réellement s'offrir. Des articles sur l'entraide, mais rien qui ressemblât au récit de Zoe, qui mettait toujours en scène une personne riche, prenant dans ses bras des bébés dans un orphelinat, avec des sacs de riz et des boîtes de lait en poudre disposées à l'arrière-plan.
« Mais Esther, il faut que tu arrêtes tous ces jeûnes, oh !»
disait Maillé.
« Vous savez, il y a des mois où Esther donne tout son salaire à son église. Ils appellent ça planter une graine. Puis elle vient me voir et me demande de lui donner 300 neiras pour le bus.
« Mais ma, c'est juste une petite aide. C'est pas grand-chose pour vous, »
dit Esther en souriant.
La semaine dernière, elle jeûnait avec un mouchoir,
poursuivit Zémaillé.
Elle l'a gardé sur son bureau toute la journée. Elle nous a dit que quelqu'un de son église avait eu une promotion après avoir jeûné avec le mouchoir.
C'est pour ça qu'elle avait ce mouchoir sur sa table?
Demanda Iphémélou.
Mais je crois que les miracles existent vraiment. Je sais que ma tante a été guérie du cancer dans son église,
dit Doris.
Avec un mouchoir magique, Abby. S'esclaffa Zémaillé.
Vous ne croyez pas, ma? Mais c'est vrai.
Ravie de participer à la discussion, Esther rechignait à regagner son bureau.
Ainsi, tu voudrais une promotion, Esther? Ce qui veut dire que tu veux mon job?
Demanda Zémaillé.
Non, ma. Nous serons tous promus au nom de Jésus,
dit Esther.
Esther, t'a-t-elle dit quel esprit tu as, Iphémélou?
Demanda Zémaillé en se dirigeant vers la porte.
Quand j'ai commencé à travailler ici, elle m'invitait constamment à venir dans son église. Et un jour, elle m'a dit qu'il y aurait un service de prière spécial pour les gens qui avaient l'esprit de séduction. Des gens comme moi.
Ce n'est pas totalement exagéré, dit Doris avec un air narquois.
Quel est mon esprit, Esther?
Demanda Iphémélou. Esther secoua la tête en souriant et quitta le bureau. Iphémélou alluma son ordinateur. Le titre du blog lui était juste venu à l'esprit. « Les petites rédemptions de Lagos ».
« Je me demande avec qui sort Zémaillé ?»
dit Doris.
Elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'amis.
Tu as vu sa voiture? Avec son salaire, elle ne pourrait même pas se payer les phares. Sa famille n'est ni riche ni rien. Je travaille avec elle depuis presque un an et je ne sais pas ce qu'elle fait vraiment.
Peut-être qu'elle rentre chez elle, se change et commet des vols à main armée la nuit, dit Ifemelu.
Va savoir.
Nous devrions faire un sujet sur les églises, dit Ifemelu, comme celle d'Esther.
Ce n'est pas le style de Zoé.
Ça n'a pas de sens que Tantôt Nénou veuille publier trois portraits de ces femmes rasoirs qui n'ont jamais rien accompli et n'ont rien à dire, ou de femmes plus jeunes sans aucun talent qui ont décidé qu'elles étaient créatrices de mode.
Tu sais qu'elle paye Tantôt Nénou, n'est-ce pas?
Dit Doris.
Elle la paye?
Ifemelu eut l'air stupéfait.
Non, je ne savais pas. Et tu le sais très bien.
Eh bien, elle la paye, la plupart. Il faut que tu comprennes que ça se passe souvent ainsi dans ce pays.
Ifemelu se leva pour rassembler ses affaires.
Je ne sais jamais quelle est ton opinion, ni même si tu en as une.
Et toi, tu es une peste qui critique tout!
Hurla Doris, les yeux exorbités. Affolée par la soudaineté de son changement, Ifemelu pensa que Doris était peut-être, sous ses airs affectés, une de ces femmes capables de se transformer complètement quand on les provoquait, de déchirer leurs vêtements et se battre dans la rue.
Tu es là à t'ériger en juge, continuait Doris. Pour qui te prends-tu? Pourquoi crois-tu que ce magazine devrait tourner autour de toi? Il ne t'appartient pas? Tante Onenou t'a dit ce qu'elle voulait faire de ce magazine, alors soit tu le fais, soit tu n'as rien à faire ici.
Tu devrais t'acheter une crème hydratante et arrêter de faire peur aux gens avec ce rouge à lèvres affreux, dit Ifemelu,
et faire quelque chose de ta vie, au lieu de croire que lécher les bottes de Tante Onenou et l'aider à publier un magazine de merde t'ouvrira des portes, car tu peux toujours courir.
Elle sortit du bureau, consciente de sa grossièreté, honteuse de ce qui venait de se produire. C'était peut-être un signe qui l'incitait à partir et à créer son blog. Au moment où elle sortait, Esther lui dit tout bas, avec le plus grand sérieux,
« Ma, vous avez l'esprit qui fait peur au mari. Vous êtes trop dure, Ma. Vous ne trouverez pas de mari. Mais mon pasteur peut détruire cet esprit. »